RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, c'est un constat partagé par tout le monde. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est extrêmement critique. Et l'un des aspects les plus préoccupants, c'est l'accès à l'eau potable. La nappe phréatique alimentant ce territoire palestinien est polluée à plus de 95%. L'eau du robinet est salée, impropre à la consommation aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé. Un système privé de production d'eau s'est développé, mais la majorité de cette eau ne devrait pas non plus être bu. À Gaza, la difficile quête d'eau potable, grand reportage signé Guilhem Deltey.
Kamal Mohamed Abou Shahab ouvre le portail de sa maison dans ce lotissement de fortune situé à l'extrémité nord de la bande de Gaza. À quelques encablures d'Israël, vivait toute sa famille jusqu'à l'été 2014. Mais la zone a été bombardée durant le conflit.
Tout a été détruit durant la guerre. Ma famille ici a perdu 15 maisons, mais tout le quartier a été touché. En tout, ce sont 150 maisons qui ont été détruites, peut-être plus.
Certains habitants ont depuis quitté les lieux. Kamal Mohamed Abou Shahab et certains membres de sa famille, eux, sont restés dans l'attente d'une hypothétique reconstruction. Ils vivent dans les maisons toujours debout.
La vie est assez difficile pour nous car nous n'avons pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez souffrir encore et encore. Et quand votre maison est détruite, cela rend la vie encore plus difficile.
Dans ce quartier reculé et déshérité, les conditions sanitaires sont mauvaises. Les habitants ont un accès à l'eau, mais de manière assez aléatoire.
Durant l'été, nous souffrons. Nous n'avons de l'eau qu'un jour sur quatre, mais l'hiver, ça va. L'été, on doit stocker l'eau dans ces containers. On les remplit à chaque fois qu'il y a de l'eau au robinet. Et si on est obligé, on va en acheter.
Habituellement, la famille Abou Shahab boit l'eau du robinet. Elle est pourtant très salée. Kamal fait le tour de sa maison et désigne un conteneur en plastique noir.
Regardez par vous-même les traces blanches sur la paroi. C'est du sel. Nous considérons que cette eau est potable et on la boit. Ce n'est pas seulement pour nettoyer la maison ou laver les vêtements.
Pourtant, ce père de famille qui a encore 5 enfants à charge de ses biens, cette eau est impropre à la consommation.
Depuis peu, les gens comprennent que cette eau nuit à leur santé. Certaines personnes nous conseillent désormais de ne pas la boire, que cela n'est pas bon pour notre santé. Il y a par exemple des messages à la radio pour nous informer que l'eau est polluée, que les pluies sont insuffisantes pour remplir les puits et renouveler la nappe phréatique.
Mais pour Kamal Mohamed Abou Shahab, nécessité fait souvent loi. L'eau municipale lui coûte entre 12 et 20 euros par mois et il n'a pas les moyens d'acheter de manière régulière une eau de meilleure qualité. La famille Abou Shahab fait presque figure d'exception aujourd'hui à Gaza. 95% des habitants de la bande ne boivent pas l'eau du robinet. C'est le cas de Shadi. Lui habite dans un immeuble de la ville de Gaza avec sa femme et ses deux enfants en bas âge. Dans sa cuisine, il y a deux systèmes d'eau. Un robinet et un réservoir dont il dévisse le couvercle. Ça fait 150 litres.
Oui, je crois, ou peut-être 200. Là, c'est l'eau municipale, mais maintenant, on n'en a pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut faire fonctionner une pompe pour qu'elle arrive jusqu'au robinet. On a une petite batterie, mais il faut la recharger souvent. Et on n'a pas d'électricité toute la journée. Peut-être 8 heures par jour seulement. C'est tout ce à quoi nous avons droit à Gaza. Et parfois, vous avez de l'électricité, mais il n'y a pas d'eau dans les tuyaux.
Pour Shadi, c'est jour de livraison d'eau potable. Le camion-citerne est garé dans la rue, un tuyau déroulé dans la cage d'escalier jusqu'au réservoir de son appartement.
À peu près toutes les deux ou trois semaines, il faut appeler le livreur. Mais là, ça faisait 5 jours qu'on n'avait plus d'eau. Je l'appelais, mais il était toujours occupé. Il y a beaucoup de travail pour les livreurs d'eau, vous savez, à Gaza. Ma femme me disait tous les jours, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Mais le livreur me répondait toujours qu'il était débordé.
En attendant de pouvoir remplir son réservoir, Shadi allait emprunter de l'eau à ses parents, à l'étage du dessus. Pas question pour lui de boire l'eau salée du robinet. Elle ne sert qu'au ménage et à la douche. Mais la tête, précise-t-il, il se la lave à l'eau douce. La consommation de sa famille lui coûte 2,50€ toutes les deux ou trois semaines. Cela fait trois ans que Mohamed Younes livre de l'eau dans la bande de Gaza depuis qu'il a obtenu son diplôme universitaire. Il parcourt les rues de ce territoire en faisant résonner une musique comme une signature.
Cette musique est juste pour les livreurs d'eau. Il y en a une autre pour les livreurs de gaz, par exemple. Comme ça, les gens qui n'ont pas mon numéro de portable peuvent arrêter mon camion dans la rue.
Mohamed Younes se rend chez 25 à 30 familles quotidiennement. Et deux à trois fois par jour, il va recharger son camion citerne auprès d'une usine d'eau.
Je viens ici avec mon camion et je le remplis d'eau pour pouvoir la livrer chez les gens. J'ai aussi un générateur pour propulser l'eau dans les étages quand les gens habitent dans des immeubles. Et j'ai aussi une corde pour accrocher le tuyau afin qu'il puisse atteindre le toit des habitations.
Des usines d'eau, il en existait plus de 150 sur l'ensemble de la bande de Gaza en 2015. L'une des plus anciennes est celle de la famille Redouane à Beit Lahia. Elle a été créée il y a 13 ans. Abderrahman Redouane est le fils du propriétaire des lieux.
On remplit d'abord ses cuves. Et puis, elle ressort ici, potable. L'eau, au départ, vient d'un puits, là-bas.
Le jeune homme désigne une plaque métallique au milieu de l'usine, recouvrant un trou. Le puits fait 55 mètres de profondeur. À partir de là, 80 000 litres d'eau potable sont produits chaque jour, la consommation d'un millier de familles. Mais Mahmoud Hassan Redouane, le fondateur de cette usine, est inquiet tant pour son entreprise que pour la bande de Gaza.
Maybe before, but now we too much cars, too much station.
Les affaires allaient mieux avant. Maintenant, il y a trop de camions, trop d'usines dans la bande de Gaza. Deux de nos trois camions citernes sont à l'arrêt. Depuis la fin de la dernière guerre en 2014, beaucoup d'usines se sont ouvertes. Et ce n'est pas bon pour la nappe phréatique. Ça m'inquiète pour l'avenir. Ce n'est pas bon. On pompe trop d'eau dans l'aquifère.
Ces prélèvements dans la nappe phréatique sont en effet trop importants. Cet excès a entraîné une infiltration de la mer dans ses réserves d'eau douce. Et entre cette eau salée et les eaux usées qui se frayent leur chemin dans le sol, l'eau gazaoui contient désormais des taux de chlorure et de nitrate 5 à 7 fois supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La question de l'accès à l'eau potable est l'une des thématiques de travail de l'ONG Oxfam. Elle s'est associée à de petits producteurs pour apporter de l'eau potable à des communautés isolées, marginalisées, car boire l'eau du robinet peut avoir des conséquences lourdes, souligne Rada Tsnounou, la responsable des programmes d'Oxfam dans la bande de Gaza, même si celles-ci sont difficiles à évaluer précisément.
De manière générale, la contamination de l'eau par les chlorures et les nitrates cause divers problèmes. La concentration de chlorure peut entraîner des maladies telles que la dysenterie ou des diarrhées, des dysfonctionnements des reins ou de l'hypertension. Et pour les enfants, la forte concentration de nitrate peut provoquer le syndrome du bébé bleu. Mais le problème, c'est que ces maladies ont d'autres causes. C'est pour ça que pour le moment, on n'a pas eu de rapport qui pointe précisément l'impact de la crise de l'eau sur la santé des gens.
Mais si l'eau du robinet est polluée, c'est aussi souvent le cas de celle des vendeurs privés. Entre deux tiers et trois quarts des quantités d'eau qu'ils produisent restent impropres à la consommation. Une estimation difficile à préciser car nombre de ces vendeurs travaillent de manière illégale, sans permis des autorités. Mais la proportion est alarmante et Oxfam tente donc de faire passer un message à ces acteurs-là.
Au début, il était très difficile de faire prendre conscience des risques de la contamination biologique de l'eau de ces vendeurs privés. Ça a été difficile de les convaincre de chlorer l'eau selon les recommandations de l'OMS. Mais on a travaillé sur cette prise de conscience, sur la promotion de l'hygiène, la sensibilisation au risque de cette contamination sur la santé des gens et particulièrement des enfants. Et maintenant, les gens acceptent cette idée et acceptent le goût de l'eau chlorée.
La mer représente une autre source possible d'approvisionnement en eau. Il existe désormais 3 usines de dessalement dans la bande de Gaza. La plus récente, construite par l'Union européenne et l'UNICEF, a été inaugurée en janvier dernier à Deir el-Balah, dans le centre du territoire.
On commence par les puits de plage. L'eau de mer est prélevée par 4 puits creusés sur la plage. C'est ça que vous voyez là-bas. Ils font environ 40-45 mètres de profondeur. Et ils prélèvent l'eau de mer, pas celle de l'aquifère.
Les locaux sont d'une propreté éclatante, le matériel flambant neuf. L'usine a été conçue pour produire 6000 m3 par jour. Elle devrait alimenter à terme 250 000 personnes dans le sud de la bande de Gaza. Mais ces opérateurs sont aujourd'hui confrontés à un problème majeur. Mohan Alperis est le responsable de projet de cette nouvelle usine.
L'usine fonctionne avec l'électricité du réseau national, mais vous savez, il y a une pénurie d'électricité à Gaza. Les autorités nous avaient assuré, avant le lancement de l'usine, qu'elle nous fournirait 1,5 MW. Mais nous avons malheureusement du mal à obtenir cette quantité de manière régulière. Donc là, vous avez des salles électriques avec les transformateurs et nous avons en plus des générateurs de secours qui permettent de faire tourner l'usine à pleine capacité. Eux fonctionnent au diesel. Et puis quelques panneaah solaires pour avoir un peu d'énergie renouvelable.
Mais ces panneaux solaires ne produisent qu'une petite quantité de l'électricité nécessaire. Quant aux générateurs, leur fonctionnement coûte cher. Faire tourner l'usine avec cette source d'énergie triplerait le coût de production de cette eau potable. Et les opérateurs préfèrent donc attendre de recevoir l'électricité du réseau national, même si du coup l'usine ne fonctionne que 2 à 3 heures par jour. Malgré ces difficultés, le principe du dessalement d'eau de mer reste celui privilégié par les autorités. Sur le terrain adjacent, une usine nettement plus grande est censée être construite dans les prochaines années. Le coût de ce projet est très élevé. La construction est estimée à plus de 600 millions d'euros. Mais il demeure, aux yeux de Monter Schoblach, directeur général de l'administration en charge de la distribution d'eau dans la bande de Gaza, indispensable.
La seule solution qu'on doit avoir, ça a été écrit dans le plan national de l'eau, c'est d'avoir une station de dessalement d'eau de mer. Parce que c'est la source qu'on appelle source renouvelable. Maintenant, on a besoin de à peu près 55 millions de mètres cubes par an. Alors, pour avoir cette quantité, on a besoin d'avoir une source au-delà de l'eau phréatique. Le dessalement d'eau de mer, c'est la seule solution qu'on appelle une solution stratégique. Une solution stratégique, mais temporaire, tant qu'on aura l'occasion de repérer l'eau phréatique.
Réparer, préserver la nappe phréatique en arrêtant pendant un temps les prélèvements. Mais il faut d'abord trouver un accord avec les donateurs internationaux pour financer cette usine, puis la construire. Dans un territoire sous blocus, cela prendra au moins 3 ans. Et une fois en état de marche, cette usine devra faire face à d'autres défis, le financement de son fonctionnement notamment, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de factures à Gaza restent impayées.
Les gens peuvent payer, même si l'eau est à 2 shekels et demi, alors qu'ils payent aujourd'hui 1 shekel et demi. Mais la priorité, c'est qu'ils aient une amélioration de la situation économique à Gaza. Mais je suis certain aussi que quand les gens verront une amélioration de la qualité de l'eau, ils seront prêts à payer. Le taux de recouvrement des factures est entre 45 et 50%. C'est bas, mais la qualité de l'eau n'incite pas à payer. Tant qu'on n'améliorera pas la qualité, on ne peut pas demander aux gens de payer leurs factures.
Comme pour sa jeune petite sœur, l'accès à l'électricité sera aussi un défi majeur pour cette grande usine, plus encore étant donné sa taille.
Si on n'a pas de source d'énergie propre, c'est comme aider quelqu'un en lui donnant une Rolls, une Mercedes ou une Renault, mais sans lui laisser les clés ou de l'essence. Quand les donateurs nous aideront à régler notre problème d'eau, il faudra qu'on trouve une solution pour l'électricité. Et je pense que c'est plus politique qu'économique.
Monter Schoblach pointe la division entre Hamas et Fatah, les deux grands partis palestiniens, une division qui dure depuis 10 ans, et la pénurie, elle, fait désormais partie du quotidien. Dans son laboratoire de Gaza City, Dia Abouassi a peut-être trouvé un élément de réponse au défi énergétique. Cet ingénieur de 32 ans a mis au point une nouvelle façon de dessaler l'eau de mer.
Nous utilisons des techniques de nanofiltration. Cela permettra de produire une eau potable répondant aux standards OMS avec une consommation d'énergie moindre. Notre technique a besoin de 4 kW pour dessaler 1 mètre cube d'eau. Mais avec nanofiltration, on aura besoin de 2,5 kW pour dessaler la même quantité d'eau et avoir la même qualité.
Cette technologie permettrait donc d'économiser près de 40% d'énergie. Mais il reste encore à convaincre les décideurs. Un test devait être mené dans l'une des usines existantes. Pour l'instant, Dia Abouassi attend toujours qu'on l'appelle. Et cette technologie n'écarte pas non plus un autre risque. Une usine peut être une cible lors d'un conflit. L'unique centrale électrique de la bande de Gaza avait été frappée par Israël lors de la guerre de 2014. أنا دم فلسطيني Gaza, la difficile quête d'eau potable, un grand reportage de Guilhem Delteil, réalisation Lorenzo Danet.